l'université. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 56 74 76 85. Odoradio, la radio plus près de chez vous. Site internet www.odoradio.net.
L'association Loi 1901, une boîte un toit de Saint-Loubès, assure le tri sélectif et le recyclage par la collecte de conserves, canettes, aérosols, électroménagers et tout autre métaux. S'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable et de solidarité en redistribuant les revenus rassemblés aux familles en difficulté. Enlèvement gratuit. Passage sur appel au 06 73 02 81 42 et plus d'informations sur notre site internet www.uneboiteintoit.fr.
Présent à ce nom depuis 20 ans, toute l'équipe de votre restaurant Pizzeria Marco vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec des produits frais et cuisinés maison, midi et soir, du lundi au vendredi et le samedi soir. Retrouvez votre restaurant Pizzeria Marco à sa nouvelle adresse, 5, 7, rue Condorcet à ce nom, sortie Rocade numéro 25. Le restaurant Pizzeria Marco, c'est aussi des repas de groupe, des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des repas d'entreprise, des séminaires et un service traiteur. Études et devis personnalisés, contactez-nous. Retrouvez l'ensemble de nos offres et la carte du restaurant Pizzeria Marco sur notre site internet www.pizzeriamarco.fr.
Vous écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3.
Et bonjour et bienvenue sur nos journées sur le 433 ou de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et on se retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé le jour même à 18h. On n'oublie pas le podcast. Et oui, la possibilité de venir entendre, voire télécharger toutes nos émissions via le site odoradio.net. Elle se rappelle récurrent, réalisé, quand nous retrouvons au sommaire de ce journal. C'est ce que je vais sans plus tarder vous présenter. Allez, au menu en ce mardi 3 mars. Dans quelques instants, c'est Sandrine qui nous présentera quelques brèves. On aura une première invitée. Ce sera une interview par téléphone. Florence Calmejane, elle est vice-présidente d'Endofrance et elle va nous parler de la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose qui se déroule en ce moment pour cette semaine, donc depuis ce jour jusqu'au 9 mars prochain. Et tout un cycle de conférences vont être présentées à l'échelon national et pour Bordeaux, ce sera le 28 mars prochain. On en parlera avec notre invité du jour. Et quand je dis notre invité, voilà, il y a deux invité, bien sûr, on ne va pas oublier Michel, et vous verrez, il y aura de magnifiques photos sur Facebook, Michel Favret, l'association Constellation et Galaxie pour la 6e chronique astronomique. Sur la partie musicale nommée Westfield et Blick sont en tournée également nationale pour fêter la sortie de leur deuxième album, une date dans l'agglomération, ce sera ce samedi 7 mars au Rocher de Palmer. Alors notez bien le numéro de téléphone de la radio 05 56 74 76 85, quand vous pourrez également au choix. Soit une invitation à la soirée, ou carrément, et oui, c'est Noël dès le mois de mars, le deuxième album du groupe. Faudra faire un choix, faudra nous faire un petit coucou tout à l'heure, mais quand je l'annoncerai, pour le journal, et on clôturera par notre habituel agenda culturel. Et comme on est mardi, le magazine thématique du jour, c'est le magazine Les Rives des Sciences, en partenariat avec Cap Science et la conquête spatiale. Et la thématique, voilà, si je me suis pas trompé, Gérard Sandrine, donc tout va bien. Voilà pour le sommaire. Eh bien justement, Sandrine, c'est donc à vous d'ouvrir ce journal par quelques brèves d'informations.
François Hollande se rendra à Mérignac demain. Le chef de l'État visitera le site de Dassault Aviation de Mérignac à partir de 14h. Un déplacement qui intervient après la vente historique de 24 avions Rafale en Égypte, annoncée le 12 février dernier. Et après cette annonce, d'ailleurs, le président socialiste de la région, Alain Rousset, avait appelé de ses voeux que cette première vente à l'export soit suivie très rapidement d'une autre avec l'Inde. On ignore encore les détails de la visite présidentielle et si d'éventuelles annonces sur d'autres ventes sont envisagées. On rappelle que 10 000 emplois sont liés directement au secteur de l'aéronautique à Mérignac. Hier, Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, et les élus régionaux se sont réunis en commission permanente à l'hôtel de région. Ils ont voté 158 dossiers pour un montant total de plus de 37 millions d'euros, dont près de 10 millions d'euros pour la Gironde. On rappelle que la région soutient plusieurs secteurs tels que l'économie, les technologies d'information et de communication, l'économie solidaire, la formation professionnelle, la culture ou encore la politique de la ville. Et sur la rive droite, ce sont 25 000 euros qui ont été attribué à Haute-Garonne Développement à Floirac. L'agence de développement économique de la rive droite propose plusieurs actions pour contribuer à l'embauche de femmes sur des postes en difficulté de recrutement et habituellement attribués aux hommes. Le Festival des lycéens et des apprentis, 220 projets venus de toute la Quintaine en liste. Ce sont donc 220 projets qui ont été retenus pour cette année. Ces projets artistiques qui ont convaincu le jury ont été présentés par 93 établissements aquitains dans les catégories suivantes: du culturel avec de la musique, de la danse ou encore du théâtre, mais aussi centre de presse, internet, slam, sciences et numériques et encore accueil d'une délégation internationale. Et en Gironde, ce sont donc 93 projets qui ont été retenus. Ils seront présentés le 12 et 13 mai prochain au Rocher de Palmer à Senon. Le Festival des lycéens et des apprentis vise surtout à valoriser et à stimuler la créativité et l'esprit d'initiative de la jeunesse aquitaine. Il offre également aux jeunes artistes aquitains l'opportunité de se produire devant le grand public lors de prochains concerts. Et à Bordeaux, le prolongement de la ligne C sera inauguré vendredi. Cette extension de 3,7 km permet de relier Bègles-Terre-Neuve à Bègles-Terre-Sud, deux secteurs en plein renouvellement urbain. Son tracé emprunte la rue Robert-Schumann, la rue Ambroise-Croizat, la rue des Frères Moga, l'avenue Lénine, la rue Alexis-Labro pour allier enfin la route de Toulouse. À relever, la mise en service de ce nouveau tronçon de l'INSEE s'est décalée au 16 mars prochain. 6 nouvelles stations jalonnent le parcours de cette extension. Un parc relais situé avenue Lénine pourra provisoirement accueillir 200 véhicules en attendant la mise en service d'un ouvrage de plus grande capacité à proximité de la rocade. La l'INSEE desservira Villeneuve-d'Ornon courant 2018. Ce nouveau tronçon franchira notamment la rocade au-delà du pont de la maille.
Merci Sandrine.
Merci Joël.
Allez, premier invité du jour, interview par téléphone. Voilà, on a tout de suite le plaisir de retrouver Florence Calmé-Jeune, vice-présidente d'Endofrance. Florence, bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Odoradio.
Bonjour, je vous remercie.
Alors, on va parler bien sûr des cycles de conférences, on va parler de cette association Endofrance qui est la première association de lutte contre l'endométriose créée en 2001. On va parler, on va donner de l'info bien sûr, mais peut-être commencer par expliquer ce qu'est l'endométriose, histoire de sortir la maladie de l'ombre.
Oui, tout à fait. Alors l'endométriose, en fait, consiste en la migration anarchique de cellules qui proviennent de l'endomètre et qui vont aller migrer à l'intérieur du corps de la femme et venir coloniser plusieurs organes, en fait tous les organes qui seront vascularisés. Donc ça va donner lieu à des adhérences, des lésions, des kystes ou des nodules. Et ce phénomène se produira à chaque fois que la femme aura ses règles, créant de l'inflammation et augmentant finalement le développement de la maladie.
Voilà, c'était bien de commencer, bien sûr, par le préciser. Alors, je disais, l'association Indo-France, la première association de lutte contre l'endométriose, toute une série de conférences, parce que c'est important de sensibiliser, donner de l'info, montrer aux femmes qu'elles sont pas seules dans ce combat. Alors, beaucoup de moyens d'action, mais notamment ce cycle de conférences, c'est une première, tout ce cycle, parce qu'il y a pléthore de dates. On va mettre en avant, en ce qui nous concerne, nous, pour l'agglomération Bordeaux, mais c'est une première, oui. Ce cycle de conférences avec votre association de France.
Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'un cycle d'une telle envergure est lancé pour la semaine européenne contre l'endométriose qui a lieu du 3 au 9 mars. Et nous avons organisé à peu près 13 conférences actuellement dans plusieurs villes de France, dont Bordeaux, qui aura lieu le 28 mars sur le site de carrière universitaire.
Voilà, on donnera un site internet pour avoir l'info, hein, parce que notamment le 6 où serait à l'île de la Réunion, Nantes, Rennes, etc. Alors pour Bordeaux, comment vous allez cibler justement cette campagne? Bien sûr, tout le monde est convié, les femmes bien sûr, à titre de sensibilisation, les proches aussi, pour mieux connaître et appréhender cette maladie. Mais est-ce que vous ciblez plus particulièrement un public défini pour ce 28 mars, ce rendez-vous à Bordeaux?
Non. En fait, on cible tout le public. Forcément, les femmes ont priorité.
Bien sûr.
Mais effectivement, leurs conjoints, leurs familles et aussi les médecins qui sont invités à venir se renseigner parce que la maladie reste encore méconnue par le corps médical. Il est important que ce corps médical se déplace et vienne prendre des informations auprès de spécialistes qui animent ces conférences.
Alors, les conférences animées par des médecins connus pour leur expertise et dont la plupart sont membres du comité scientifique d'Indo-France. Alors, comment va se dérouler ces conférences? Plusieurs thèmes vont être abordés à ces occasions.
Oui, tout à fait. Il y aura plusieurs thèmes, donc des thèmes qui sont en général récurrents et principaux. On aura la thématique de la douleur, la gestion de la douleur, des traitements, quels traitements pour les endométrioses. On aura aussi la problématique de l'infertilité qui est souvent une conséquence grave de cette maladie. Et on aura aussi des problématiques diverses comme l'adénomyose ou traitement chirurgical.
Alors ces cycles de conférences, ça permet de sensibiliser, on le rappelle. Est-ce que vous avez d'autres moyens d'action pour mieux faire connaître cette maladie et la faire sortir de l'ombre, en reprenant bien sûr le slogan de l'association Indo-France?
Oui, tout à fait.
Par exemple,
nous organisons régulièrement des rencontres amicales dans chaque région de France. Et ces rencontres amicales s'apparentent à des groupes de parole, ce qui permet aux femmes d'échanger leur expérience et d'avoir des informations de qualité sur l'endométriose, les mécanismes et la prise en charge, les traitements. On organise aussi régulièrement des tables rondes avec des médecins qui viennent discuter avec ces patientes de manière informelle. Et les patientes et les femmes, les conjoints peuvent poser des questions à ces spécialistes de l'endométriose autour des tables rondes.
Très bien. Si on veut plus d'infos, site internet, on va peut-être, avant de donner d'ailleurs le site internet, rappeler la date du 28 mars pour la conférence en ce qui concerne l'agglomération. Donc redonnez-nous les modalités, les lieux précis, dates, heures, etc.
Alors, pour s'inscrire à la conférence, il faut envoyer un mail à aquitaine@endofrance.org. Donc, c'est une adresse locale que vous retrouvez sur notre site internet. Alors, les inscriptions sont obligatoires parce que nous avons un minimum de places en fonction des salles. Donc, il faut s'inscrire auparavant et donc ça sera sur le site de Carrère et nous donnerons toutes les informations aux personnes qui s'inscriront. Et ça sera en début d'après-midi normalement, vers 14h.
Voilà, on le rappellera. S'il faut s'inscrire, c'est gratuit, bien sûr, les conférences, mais c'est histoire d'avoir un meilleur accueil. Alors, site internet, endofrance.org, hein, on a toutes les infos. Et vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. Hein.
Tout à fait, nous avons une page Facebook et une page Twitter.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à la fois sur ces conférences et votre association, l'Association française de lutte contre l'endométriose?
Mais écoutez, je pense que ce qu'il est important de rajouter, c'est que venir à ces conférences est important. Ça prouve que le public se mobilise aux côtés des acteurs associatifs et ça permet aussi de prendre des informations très importantes. Donc c'est le moment de montrer que les femmes souffrent de cette maladie qui est encore mal connue et c'est le moment un petit peu de se faire entendre et de venir chercher des informations importantes pour les futurs de la prise en charge.
Très bien. Mais écoutez, Florence, merci beaucoup d'avoir pu prendre quelques instants. Vous êtes vice-présidente, on le rappelle, d'Indo-France, l'Association
remercie.
Française de lutte contre l'endométriose. Et on va relayer tout à l'heure via notre Facebook les informations avec les coordonnées de l'association. Et bien sûr, rappeler en ce qui nous concerne cette date du 28 mars et on mettra également le mail pour s'inscrire. Voilà, merci à vous.
Super. Ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Allez, merci, au revoir. Allez, on va accueillir comme il se doit Michel Favret, l'association Constellation et Galaxie. Taxi. Michel, bonjour.
Bonjour Joël.
Alors, le mois dernier, on fait un petit peu décalé, hein, parce que on se voit tous les premiers, le dernier mercredi du mois. Et là, rappelez-nous, hein, donc l'Islande, ça s'est bien passé?
Ça s'est bien placé, puisqu'on a pu observer des aurores boréales de nuit claire. Hein. Il fait pas beau tous les jours là-bas, donc on n'a pas pu les voir aussi souvent qu'on aurait voulu, mais c'était quand même un beau voyage.
Magnifique t-shirt, hein, d'ailleurs, Michel, un souvenir, Aurora Borealis. Donc là, on verra également sur Facebook, hein, c'est histoire de faire un petit lien. Allez, alors, bien remis néanmoins de ce voyage, parce que vous êtes revenu seulement lundi. Hein.
Dimanche. Mais un peu fatigué.
Avec
parce
le décalage,
que, la dernière
peu décalage
nuit
horaire.
D'observation des aurores, c'était samedi, et j'ai dû dormir à peu près 3 heures avant d'aller prendre mon avion.
Voilà, vous avez vu, on s'inquiète de votre santé, mais vous êtes là, vous nous l'aviez promis, donc on a décalé, hein, pour les raisons que le même d'invoquer. Votre présence pour cette sixième chronique astro. Alors, je ne sais pas si soit
je pense
sommaire ou...
Je pense qu'on va passer directement au thème que j'ai choisi ce mois-ci, c'est le soleil, en raison justement des aurores, hein, puisqu'on va voir qu'il y a un rapport direct avec le soleil, mais surtout parce qu'on aura eu un événement, une observation que tout le monde pourra faire probablement, le 20 mars, on aura une éclipse partielle de soleil visible partout en France. Alors le soleil, pour commencer, je préférerais reparler des échelles, parce qu'on aborde un objet astronomique qui est beaucoup, beaucoup plus grand que la Terre. Hein, le soleil, son diamètre, c'est à peu près 109 fois celui de la Terre, ce qui n'est pas très parlant, parce qu'en réalité, il faut raisonner en volume, et en volume, le soleil, c'est 1 300 000 fois la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme dans l'espace. Alors en astronomie, c'est toujours difficile de se représenter les grandes tailles ou les grandes distances. Aussi, j'essaie de transposer avec des images qui peuvent parler aux auditeurs. Si on prend par exemple le soleil en faisant une maquette avec un ballon de basket pour représenter le soleil, un ballon de basket, ça fait à peu près 24 cm de diamètre. À cette échelle là, la Terre aurait seulement 2 mm de diamètre. Alors pour donner une idée, ce sera à peu près la taille d'un grain de poivre ou une toute petite perle qu'on peut utiliser pour faire des petits bracelets. Une façon de le voir différente, si vos auditeurs ont la curiosité, ils pourront retrouver facilement sur Internet des images du transit de Vénus. C'est un phénomène qui est assez rare quand Vénus passe entre nous et le Soleil. Donc on voit comme un petit disque noir passer devant le Soleil. Et bien si vos auditeurs observent ces photos qu'on trouve sur Internet, il faut se dire que la Terre par rapport au Soleil, c'est 3 fois plus petit que le point noir de Vénus qu'on voit sur le Soleil, et vous verrez, c'est pas grand chose. Alors 3 fois plus petit tout simplement parce que Vénus a la même taille de la Terre, mais lorsqu'elle passe entre nous et le Soleil, elle est 3 fois plus près de nous. Donc on voit son image 3 fois plus grande que celle du Soleil à l'échelle. Non seulement le Soleil est un objet très grand, mais on est très loin de lui. On a du mal à se rendre compte des distances. En astronomie, la distance de la Terre au Soleil, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Si on garde notre échelle du ballon de basket, ça représenterait une distance de 25 mètres, où il faudrait mettre le petit grain de poivre pour représenter la Terre. Alors 25 mètres, c'est facile, c'est la moitié de la largeur d'un terrain de foot. Donc on pourrait imaginer, hein, j'espère que vos auditeurs peuvent se le représenter, mettre le ballon de basket sur le point central de remise en jeu, ce serait le Soleil, et pour représenter la Terre, donc un petit grain de poivre qu'on mettrait sur la ligne de touche, juste en face du rond central. Une autre façon de voir les choses, si on imagine partir vers le Soleil en voiture, hein, on sait bien tous que c'est impossible, mais en roulant à 130 km/h comme on peut le faire sur autoroute en France, sans jamais s'arrêter, jamais, on roule sans s'arrêter, même pas pour refaire le plein, il faudrait 132 ans avant d'atteindre le Soleil. Donc c'est vraiment une distance énorme. Alors le Soleil, qu'est-ce que c'est ? C'est du gaz, principalement de l'hydrogène, à peu près 92%, un peu d'hélium, 8%, et un petit peu de tout. Il y a tous les éléments présents sur le Soleil, aussi bien du carbone, de l'oxygène, du fer ou de l'or, mais en toute petite quantité. C'est à peine 1/1000 de sa masse. Comme il est fait de gaz, il a une densité qui est bien inférieure à celle de la Terre, qui est faite de roches et de fer. Sa masse est à peu près 333 000 fois celle de la Terre. C'est énorme, puisque ça représente 99,98% de tout le système solaire. Ça veut dire que les planètes, les comètes, les astéroïdes, tout ce qui tourne autour du Soleil, ça représente quand même pas grand-chose dans l'ensemble. Avec cette énorme masse, il exerce une forte attraction par la gravité, ce qui permet la révolution des planètes autour du Soleil, mais pas seulement. On ne le sait pas forcément, mais il joue un rôle aussi dans les marées, hein, qu'on attribue souvent, plus souvent à la Lune. On sait que, comme les deux astres jouent dans l'effet des marées, l'ampleur des marées est différente suivant la position relative du Soleil et de la Lune dans le ciel par rapport à la Terre, qui font que les effets des deux s'additionnent ou se contrarient. Et c'est quand la Terre, le Soleil, la Lune sont à peu près alignés, c'est-à-dire à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune, que l'ampleur des marées est la plus forte, alors que quand ça forme un angle droit, au premier ou au dernier quartier, les marées sont d'une ampleur bien plus faible. Comme tout le monde peut le constater, le Soleil brille dans le ciel, et on peut se demander d'où vient cette lumière, cette énergie du Soleil, comme de toutes les étoiles qu'on peut voir scintiller dans le ciel la nuit. Alors déjà c'est tout simple, le Soleil c'est simplement une étoile comme les autres, et elle est même plutôt petite, parce que la plupart des étoiles qu'on peut voir dans le ciel à l'œil nu sont en fait plus grandes que le Soleil. Si on voit le Soleil si gros et les autres étoiles comme des tout petits points, c'est tout simplement un problème de distance. On est bien plus proche du Soleil. Pour donner une idée de la distance énorme qui nous sépare des autres étoiles, si on reprend toujours l'échelle de notre ballon de basket pour représenter le Soleil ou une étoile, la plus proche étoile, donc un autre ballon de basket, serait à peu près à 6800 km de nous, c'est-à-dire du côté de Chicago par rapport à Bordeaux. Les distances entre les étoiles sont énormes par rapport à leur taille. On s'est longtemps demandé d'où venait cette énergie du Soleil et des planètes. On a pensé bien sûr à du feu au départ. J'ai souvent dans le planétarium des élèves qui me parlent d'une boule de feu pour le Soleil, mais c'est pas ça du tout. Aucune combustion chimique, que ce soit du bois, du carbone ou n'importe quoi d'autre, ne peut expliquer la durée du Soleil. On sait en analysant les météorites, qui sont un peu comme des fossiles du système solaire, que le Soleil brille déjà depuis plus de 4 milliards d'années. La seule explication qu'on peut avoir à cette production d'une si grande quantité d'énergie, ce sont les réactions nucléaires, dans lesquelles la matière est directement transformée en énergie, avec la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. Donc ça peut produire des énergies considérables. À la surface du Soleil, la température est déjà très élevée pour nous, c'est de l'ordre de 6000 degrés, mais au cœur, elle est vraiment énorme, de l'ordre de 15 millions de degrés. Et la densité aussi est très très forte. Et dans ces conditions, des réactions qu'on a bien du mal à reproduire sur Terre peuvent se dérouler, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Par une série de réactions compliquées, les noyaux d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, en dégageant une énorme quantité d'énergie, donc de lumière et de chaleur. À la proximité de la surface du Soleil, cette énergie est transmise par convection, c'est-à-dire c'est un petit peu comme une bouilloire d'eau qu'on fait bouillir. L'eau chaude remonte vers la surface et on a même des bulles qui éclatent, et ça se produit aussi sur le Soleil. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué parce que le champ magnétique très puissant du Soleil oblige les particules éjectées à former des espèces de boucles et à retomber sur le Soleil. On appelle ça des protubérances. On peut les observer, mais il faut des filtres spéciaux pour pouvoir faire ça. Dans certains cas, la protubérance, si vous voulez, le jaillissement est tellement violent que des particules sont éjectées dans l'espace sans retomber sur le Soleil, et parfois elles partent en direction de la Terre. Elles arrivent à peu près 2 ou 3 jours plus tard, à proximité de la Terre, et comme la Terre a aussi un champ magnétique assez puissant, elles sont déviées par le champ magnétique de la Terre, qui fait un petit peu comme un bouclier pour nous protéger de ces effets. Mais une petite quantité de ces particules arrive à pénétrer dans la haute atmosphère, et ça se passe au niveau des pôles, parce qu'à cet endroit-là, le champ magnétique forme un peu comme des entonnoirs, si on peut dire. Donc ces particules rentrent dans la haute atmosphère, elles rentrent en collision avec les gaz de l'atmosphère, et c'est ça qui provoque l'émission de lumière, des lumières qui ondulent lentement au gré des mouvements de la haute atmosphère, et ce sont les aurores polaires, qu'on perçoit un peu comme des draperies verdâtres, parce que nos yeux sont plus sensibles à la couleur verte en basse lumière. Mais sur des photons, on peut se rendre compte qu'il y a aussi d'autres couleurs, du rouge, du mauve. Ça vient tout simplement du fait que les couleurs des lumières émises sont différentes suivant les gaz qui sont frappés par ces particules. Alors personnellement, je n'en ai jamais observé avant 2013. Je suis allé les voir d'abord en Norvège en octobre 2013 et j'ai voulu y retourner, d'où mon voyage la semaine dernière en Islande où j'ai eu la chance d'en voir, comme je vous l'ai dit, de nuit. Alors c'est vraiment un spectacle grandiose, on a du mal à l'imaginer quand on l'a jamais vu, parce que ça prend une grande partie du ciel, ça ne cesse de changer de forme, d'intensité, ça peut devenir très très lumineux. Pour donner une idée à vos auditeurs, samedi soir on pouvait les voir au-dessus de Reykjavik alors qu'on était en plein dans les éclairages et la pollution lumineuse de la ville. C'est-à-dire que si on pouvait en avoir au-dessus de Bordeaux, on pourrait les voir malgré tout l'éclairage de la ville. Alors sans aller aussi loin que les régions polaires pour voir des aurores, le Soleil nous fait de temps en temps d'autres spectacles. comme la Lune, c'est une coïncidence un peu bizarre d'ailleurs. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil en diamètre, mais elle est aussi 400 fois plus près de la Terre, ce qui fait que vu de la Terre, les deux astres ont à peu près la même taille. Et quand la Lune passe devant le Soleil, elle le cache complètement, ce qui donne la possibilité de voir quelque chose de spectaculaire aussi, qui s'appelle la couronne solaire, et c'est ce qu'on appelle une éclipse totale de Soleil. Alors, il ne faut pas imaginer que ça se produit très très souvent, hein, pas à chaque fois que la Lune passe du côté du Soleil, parce que sinon on aura une éclipse chaque mois. En fait, l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à la Terre, ce qui fait que la plupart du temps, la Lune passe soit plus haut dans le ciel, soit plus bas que le Soleil, et c'est tout simplement la nouvelle Lune, c'est-à-dire le jour où on ne voit pas la Lune dans le ciel, parce qu'elle est tournée avec le côté de l'ombre, le côté sombre, pas éclairé par le Soleil, en face de nous. C'est à peu près deux fois par an que la Lune passe pile devant le Soleil et qu'une éclipse totale ou partielle peut se produire. Alors le 20 mars prochain, ce sera une éclipse totale. Sauf que pour la voir totale, il faut aller exactement à l'endroit où l'ombre de la Lune passe sur la Terre, et c'est une petite bande de 250 km de largeur à peu près. Le 20 mars, ce sera pas très facile parce qu'il faudra aller du côté des îles Féroé ou du Spitzberg pour voir ça. Donc j'avais envisagé à un moment le voyage, mais j'ai renoncé. Par contre, dans une grande partie de l'Europe, et notamment en France, on verra une éclipse partielle, c'est-à-dire la Lune ne cachera pas entièrement le Soleil, mais partiellement. À Bordeaux, ce sera à peu près les trois quarts, donc ce sera déjà quelque chose d'assez impressionnant. Si on regarde un petit peu au niveau des horaires, donc le vendredi 20 mars, ça commencera vers 9h20, quand le limbe du Soleil est à peine touché par la Lune, hein, au début du phénomène. Puis la Lune grignote petit à petit toute la partie de Soleil qu'elle va cacher, donc trois quarts au maximum à peu près vers 10h25, et elle se retire ensuite lentement jusqu'à peu près 11h30, quand le phénomène sera terminé pour la région de Bordeaux. Alors il n'y aura aucun problème pour l'observer, sauf si on a des nuages très très épais qui masquent complètement le disque solaire à notre vue.
Il faut prendre des précautions, hein.
Oui, alors l'observation des éclipses est dangereuse pour les yeux, en raison de la très forte luminosité du Soleil. On ne doit jamais regarder le Soleil directement, même à l'œil nu, et encore moins pendant de longues minutes, comme on peut le faire pendant une éclipse, puisqu'on est attiré, si je peux dire, l'œil est attiré par le spectacle. Il faut se munir de lunettes spéciales pour éclipse, hein, ce ne sont pas du tout des lunettes de Soleil, hein, c'est beaucoup plus opaque que ça. Je pense qu'on pourra mettre une photo d'ailleurs sur le site de Radio, pour montrer à quoi elle ressemble. Elle laisse passer une toute petite portion de lumière et qui est sans danger pour les yeux. Sinon, si on n'observe pas avec les précautions voulues, on peut endommager sa rétine et c'est complètement irréversible. C'est bien pire en plus si on observe avec un instrument optique qui va concentrer la lumière du Soleil. Donc on n'observe jamais le Soleil avec une paire de jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, parce que là on peut carrément devenir aveugle. Et le pire, c'est qu'on ne sent rien, parce que dans la rétine, il n'y a pas de détecteur de douleur au niveau nerveux, et la rétine est en train de brûler et on ne s'en rend pas compte, et on peut devenir complètement aveugle. Il n'y a que des astronomes avec des filtres très spéciaux qui peuvent observer le Soleil avec des instruments optiques. Donc si on n'a pas de lunettes spéciales éclipse, hein, je pense qu'on en trouvera dans le commerce d'ici le 20 mars, elles sont distribuées, j'ai pu voir ça avec les revues d'astronomie par exemple, jointes avec la revue. Il y a un système plus simple, c'est tout simplement de faire un trou dans une surface opaque, par exemple un carton, on fait un petit trou dedans, et on regarde l'image projetée par le trou, l'image projetée du Soleil, par exemple, sur un mur, sur le sol, sur une feuille de papier, disons une surface claire, quoi, que l'image puisse apparaître quand même clairement, et on verrait la forme du Soleil mangée, si je peux dire, par la Lune.
Voilà, attention, donc ne pas regarder à l'œil nu ni par les jumelles, hein. Voilà, c'est un rappel récurrent, mais ô combien important.
Ah, c'est fondamental. À chaque fois qu'il y a des éclipses, c'est considéré comme un cas sanitaire, hein, même pour un pays comme la France. Le risque représente pour les yeux du public l'observation des éclipses.
Voilà, donc suivez les conseils, et puis vous le rappelez, hein, dans certaines revues, donc on pourra avoir, ça se trouve, ça va être un coup dérisoire qui plus est, donc santé avant tout. Hein.
Voilà, il n'y a pas besoin en plus d'avoir chacun sa paire de lunettes, parce qu'on ne regarde pas en permanence l'éclipse. Oui. Ça, c'est un phénomène qui est très très lent, donc on le regarde de temps en temps, on peut très bien avoir une paire de lunettes pour, je sais pas, une dizaine de personnes, et on se la passe chacun son tour pour jeter un petit coup d'œil.
Allez, le ciel du mois, Michel.
Alors, on va faire court, hein, puisqu'avec l'actualité de l'éclipse, j'ai voulu axer plutôt sur le Soleil. Pour ce qui est de la voûte céleste, des constellations, on en avait parlé largement le mois dernier. Je pense que le plus simple, c'est de renvoyer les auditeurs sur notre site web où ils trouveront les cartes, hein, permettant d'identifier les constellations. Donc, je rappelle un tout petit coup notre site, www.constellationsetgalaxies, hein, tout au pluriel, tout attaché.org. On y trouve les informations sur le ciel du mois, et bien sûr pour ceux que ça pourrait intéresser, sur notre activité de planétarium, parce que je rappelle que même si c'est agréable de venir parler à votre micro, l'activité principale de l'association, ça reste un planétarium itinérant qui se rend surtout dans les établissements scolaires pour montrer le ciel et l'expliquer aux enfants. Si on regarde côté planète, comme pour le mois dernier, le mois de février, c'est encore Vénus le soir et Jupiter pendant pratiquement toute la nuit qui sont le plus facilement observables. On les reconnaît parce qu'elles sont bien bien plus lumineuses que toutes les étoiles qui sont autour, hein, on peut pas se tromper. Et de temps en temps, la Lune s'approche de ses planètes. Alors par exemple ce soir, mais je suis pas sûr qu'on aura un ciel bien clair pour le voir, elle sera pas très loin de Jupiter. Le jeudi 12, elle sera proche de Saturne, mais ça, ce sera dans le ciel du matin. Le jeudi 19, il y aura un très très fin croissant, hein, puisque ce sera juste la veille de la nouvelle Lune, donc de l'éclipse, qui sera pas loin de Mercure, là aussi le matin, dans les lumières de l'aube pratiquement. Le samedi 21, elle sera près de Mars dans les lueurs du couchant. Le 22, près de Vénus, là aussi le soir. Et à nouveau, elle sera près de Jupiter le lundi 30.
On a à peu près tout dit. Enfin, vous avez à peu près tout dit, Michel. Hein, c'est vous le spécialiste, bien sûr. Hein.
Voilà.
Moi, je suis le modeste monsieur Loyal. Alors, on va peut-être, avant de se quitter, rappeler. Donc, prochaine chronique, là, on l'avait décalé, hein, en raison de ce magnifique voyage islandais. Donc, on se voit à la fin du mois pour une chronique numéro 7. Et peut-être rappeler le site internet de votre association Constellation et Galaxie, même si d'aucuns maintenant le connaissent.
Hein. Bah, org. Et comme je l'avais dit le mois dernier, on peut nous écrire, hein, en mettant peut-être en sujet chronique astro O2, si des auditeurs ont des questions à me poser ou des thèmes à suggérer, hein, puisqu'au fur et à mesure, c'est moi qui les choisis, mais ce serait peut-être intéressant que les auditeurs nous fassent part de leur intérêt pour certains phénomènes ou objets dans l'espace ou dans le ciel de manière plus générale.
Très bien. Mais Michel, à très bientôt. Là, je vous dis pas au mois prochain, mais à la fin du mois.
Voilà, dans un peu plus de 3 semaines, 4 semaines, on va dire, pratiquement.
Très bien. En tout cas, merci à vous, Michel Favret, Constellation et Galaxie, d'être venu ici présenter cette 6e chronique astronomique. Allez, musique avec Noémie Westfield et Blic. Voilà, en tournée nationale et peut-être même internationale, mais je suis pas allé chercher toutes les dates. La date importante, si je puis dire, pour l'agglomération, bien sûr, sera ce samedi 7 mars pour la sortie de leur 2e album. Ils seront en concert au Rocher de Palmer à 20h30. Et pendant le laps de temps, on va écouter un extrait de leur 2e album, à Noémie Westfield et Blic. Et bien, si vous nous appelez au 05 56 74 76 85, vous nous faites juste un petit coucou amical et vous pouvez repartir soit avec une place de concert, soit avec un album. C'est selon. Allez, tout de suite, Noémie Westfield et Blic, Biafrung. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Je vais certainement écorcher le nom. En tout cas, c'est ce qu'on écoute tout de suite sur Eau de Radio avant le concert de ce samedi Rocher de Palmer.
Am Jamin groß unser Leben verwickelt. Hab gesehen am Jamin groß unser Leben verwickelt. Wollten mir liebste herablaufen, Rot keine Dunkel nicht wissen. Wollten mir liebste herablaufen. Wort kann er doch gar nicht wissen. Auf jeder Gasse häufen Schneeweg, lockert auf uns besser Schotten. Auf jeder Gasse häufen Schneeweg, lockert auf uns besser Schotten. Und in die Blicken sich zeichnen. Sich zeichnet von Vater blutzender Sorten. Hab gesehen in Feldzweigen ausgegrimmten Bäumen zu fassen. Hab gesehen in Feldzweigen bleiben. machine. Faut tenir l'hipster top lightning. Face to the rushing. In allem seh ich a Grenz, fach unser Liebe a Gefühl. In allem seh ich a Grenz, fach unser Liebe a Gefühl. Komm weit von hier, wo nur du willst, wird das Leben sein. Weit von hier, wo nur du willst, wird das Leben sein, kreuz und voll. Mich nimmt keine Hoffnung mit ein, von Augenblick in Himmel dort. Mich nimmt keine Hoffnung mit ein, von Augenblick in Himmel dort.
Et oui, voilà cette ambiance avec musicale avec Noémie Westfield et Blick, voilà qui interprète les chants légendaires du fado dans leur langue émotionnelle, le yiddish. Voilà. Donc un extrait du deuxième album de Noémie Westfield et Blick en concert ce samedi 7 mars. Ce sera au Rocher de Palmer, lerocherdepalmer.fr pour plus d'infos. Et on aura l'occasion de vous faire gagner encore quelques places. Voilà. Et puis des albums, on en a 3 en tout. Donc dans nos prochaines éditions de ce journal, on aura l'occasion de vous faire encore gagner quelques petits cadeaux. Allez, dernière partie de ce journal, c'est l'agenda culturel. Allez, pour pas trop impacter sur le magazine scientifique, le magazine réalisé en partenariat avec Cap Science. Allez, un agenda dardard, beaucoup d'invités aujourd'hui et c'est tant mieux, il y a de l'info, il y a de l'actualité. Allez, en ce mardi 3 mars, vous avez notamment une conférence d'histoire de l'art de 18h à 19h30 à la médiathèque Jacques Rivière à Senon. Elle est animée comme il se doit par Jacques Zachary et la thématique de la conférence de tout à l'heure, eh bien, s'intitule la cathédrale Saint-André, en rappelant que le principe de ces conférences d'histoire de l'art, eh bien, c'est de mettre en avant, mettre en lumière et en valeur quelques artistes et monuments bordelais remarquables, à l'instar de cette cathédrale de Saint-André qui sera abordée donc ce mardi 3 mars, culture-senon.fr. Le Poquelin Théâtre vous donne rendez-vous à 20h30 pour son traditionnel mot du mardi, vous l'appliquons-nous, avec toujours le même principe, comme tous les premiers mardis de chaque mois, une rencontre qui permet à tout spectateur présent d'écrire, de lire, de dire et de jouer les mots en direct sous toutes les formes, que ce soit des poèmes, scènes théâtrales, contes, pourquoi pas même en chanson. Le poquelintheatre.blog.fr pour également plus d'informations. Une sculpture sonore va s'installer, eh bien, du côté du Rocher de Palmer à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 25 mars prochain. La femme qui pleure, tel est le nom de cette sculpture sonore de Stéphane Winter, le directeur du label allemand Winter & Winter et créateur de ces sculptures. Il présente la femme qui pleure, installation contenant la légende de la Llorona condamnée à errer sans repos et se lamenter sur la perte de son fils. Mercredi 4, vous aurez également une sieste musicale au Rocher de Palmer, au fil du Nil. Telle sera la thématique abordée. Ce sera la cabane du monde à 15h. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire soit via le site du Rocher de Palmer, lerocherdepalmer.fr, ou alors directement par téléphone au 05 56 74 80 00. Et en ce mercredi, vous aurez également le trublion du violoncelle Ernst Reichsegger qui sera au Café du Rocher pour une performance à 18h30. Ce sera gratuit. Et enfin, ce jeudi, on reste au Rocher de Palmer, décidément beaucoup d'activités. Ce sera à la cabane du monde qu'il faudra se rendre pour une sieste musicale autour des sons des bayous. Ce sera à 15h. Et ce sera également gratuit. Allez, on va refermer les pages de ce journal de ce mardi 3 mars. On remercie tous nos invités du jour. Florence Calmejane, vice-présidente d'EndoFrance, l'association française de lutte contre l'endométriose, en rappelant que c'est une semaine européenne de prévention et d'information sur cette maladie qui se déroule en ce moment même et qu'il y aura une conférence le 28 mars prochain. On va en parler sur notre Facebook endofrance.org pour plus d'infos. Merci également Michel Favré. On le retrouvera le 25 mars prochain. Il est venu nous présenter sa 6e chronique astronomique, l'association Constellations et Galaxies. Voilà, on remercie donc Michel de cette association. Notre prochain invité sera demain. Chloé Mormel viendra nous parler du numéro de l'Écho des Collines du mois de mars. Mais pour l'instant présent, c'est le magazine Les Rives des Sciences, réalisé en partenariat avec Cap Science, animé par Sandrine Brouard pour Eau Radio. Et on va parler de conquête spatiale. Oui, voilà, la conquête spatiale. On m'a rendu en erreur tout à l'heure. On va parler de drones. Voilà, allez, on rectifie la conquête spatiale. Voilà, vous pouvez toujours avoir de l'info sur le site de CapScience, mais pour cette thématique du mois de mars, on va parler de drones. Allez, c'est Les Rives des Sciences, le magazine réalisé en partenariat avec CapScience.
Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur O2 Radio sur le 91.3. Et c'est l'heure de notre magazine scientifique sur les rives des sciences, un magazine réalisé en partenariat avec CapScience. Et ce mois-ci, nous parlons de drones, de quelques grammes à plusieurs tonnes, d'abord utilisés dans l'armée. Les drones trouvent chaque jour de nouvelles utilités dans le civil, jusqu'à affirmer que l'avenir appartient aux drones. Et dans ce marché, la région Aquitaine dispose de nombreux atouts et compte bien se positionner comme le leader européen des drones civils. Alors comment marchent ces drones? Quelles seront leurs applications dans le civil? Quelles sont les législations et formations? Et quelle est l'importance de la filière en Aquitaine? Et pour cette première émission, on reçoit aujourd'hui Serge Chaumette, professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique. Bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons aussi Christophe Mazel, dirigeant de l'entreprise Fly Sense, une PME située à Mérignac.
Bonjour.
Bonjour à vous. Et je rappelle que vous êtes tous les deux membres du comité de pilotage du cluster Aetos. Important, le cluster Aetos. Alors, on va commencer cette première émission sur les drones déjà par peut-être définir ce que c'est un drone.
Alors, un drone, déjà historiquement, c'est des appareils qui sont apparus pendant la guerre avec des avions cibles, en fait, sans pilote à bord. Donc, à la fois pour leurrer l'ennemi, mais éventuellement pour pouvoir s'entraîner aussi. Un drone, c'est quoi? C'est un système essentiellement sans personne embarquée à bord. D'ailleurs, la terminologie actuelle qui retient le terme de RPAS, Remote Piloted Aircraft System, indique bien que malgré tout on a un pilote, effectivement, mais qu'il n'est plus embarqué à bord de l'appareil, qu'il est extérieur à l'appareil. Alors pourquoi est-ce que le domaine du drone est important en Aquitaine? Le président Rousset a dit il y a maintenant quelques années de ça qu'il souhaitait faire de la région Aquitaine la région du drone à terme 2020. Et donc les moyens ont été mis en œuvre pour réaliser ça, en particulier à travers le cluster Aethos. Donc le cluster Aethos, c'est une structure mise en place par la région avec un fort partenariat avec Thales. Donc le pilote de ce cluster-là est Jean-Marc Grollot, qui effectivement est à cheval entre la région et Thales et qui anime cette structure. Alors cette structure regroupe des industriels, des universitaires, des institutionnels. Le but est de faire que toutes ces personnes-là se rencontrent pour à la fois repérer des problématiques sur lesquelles il faut travailler et puis faire émerger des projets à la fois technologiques mais à la fois en termes de mise en œuvre. Christophe y reviendra je pense tout à l'heure.
Depuis quand il existe ce cluster ?
Il existe depuis
officiellement 2011.
Officiellement 2011
Mais c'est une histoire qui a commencé un petit peu avant, quand même.
Avec un investissement fort de la région Aquitaine ?
Ah, initialement, oui. Alors, c'est, en fait, c'est une double tutelle. Hein. Il y a la région Aquitaine et Thalès, comme expliquait Serge. Donc, c'est important, puisque, effectivement, on voit bien qu'une dimension à la fois industrielle et institutionnelle. On est dans un environnement, on va dire, réglementé et à la fois très professionnel. Donc, les deux pilotes, on va dire, ont tout à fait leur place dans ce montage.
Depuis 2011, ce cluster donc piloté par la région Aquitaine à la fois et Thalès. Alors, pourquoi les drones en Aquitaine? Et on va peut-être revenir sur les différents drones qui existent.
Alors, pourquoi les drones en Aquitaine? Bien là, l'Aquitaine a un fort historique en termes d'aéronautique, hein, avec toutes les sociétés qu'on connaît dans notre région et qui sont membres justement de ce cluster, mais à la fois du pôle Aerospace Valley, dont Christophe parlera tout à l'heure. Pour revenir sur les formes de drones, on va essentiellement en distinguer deux. Lors d'une prochaine émission, l'aspect réglementation et différentes formes sera évoqué plus en détail. Ici, pour rester simple, on peut dire qu'il existe deux formes essentielles de drones. Les drones à voilure fixe, donc ce qu'on appelle la voilure fixe, c'est les formes ailes d'avion, donc où les ailes ne bougent pas, et les drones voilure tournante, donc forme hélicoptère, donc quadrirotor avec quatre hélices, hexarotor, octorotor, etc. Donc ça, c'est la version simple. Donc là, je vais rebondir sur des choses peut-être, je vais prendre ma casquette de chercheur et rebondir sur des choses peut-être un peu plus originales et moins connues du grand public. En fait, on a tendance aujourd'hui à vouloir étendre la notion de drone à tout système qui est téléopéré. Je disais tout à l'heure qu'on retenait la terminologie aircraft system téléopéré, mais ça peut s'étendre aux robots, donc les robots terrestres, exemple les voitures Google qui sont sans pilote à bord. Il existe aussi des sous-marins qui sont aussi téléopérés sans personne à bord. Et il y a un certain nombre de projets au niveau du cluster, par exemple, hein, qui travaillent avec ce qu'on appelle des drones de surface, donc des bateaux qui sont téléopérés. Ce qui nous intéresse, nous, côté universitaire, c'est de travailler sur des applications un peu futuristes et justement d'étudier ces différentes formes d'appareils en les constituant en essaims. Alors c'est quoi un essaim ? Eh bien on prend un ensemble d'appareils, on en prend 5, 10, 15, 20, on les fait voler ensemble si on considère uniquement des drones aériens et ils vont chercher à réaliser une mission. Par exemple, hein, grâce au soutien du cluster en particulier et de la région, on a pu avec Christophe Mazel mettre en place un projet qui s'appelait Carus, dans lequel on a fait voler 5 appareils qui avaient pour mission une surveillance de début d'incendie. Donc on a mené des travaux théoriques à l'université jusqu'à des mises en œuvre qu'on a pu réaliser sur le camp de Souge qui est effectivement une des briques fonctionnelles mise à disposition des membres du cluster qui nous permet de voler sans trop entre guillemets hein, se préoccuper des aspects réglementaires. Donc on a mis 5 drones en l'air en l'occurrence qui avaient un ensemble de points potentiels de départ d'incendie à surveiller. Et ces drones fonctionnaient en totale autonomie, c'est là qu'il y a un petit peu le challenge, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, les 5 drones partent, et quoi qu'il arrive dans la configuration, un drone qui n'a plus de batterie, qui doit venir se poser, des messages qui sont perdus entre les engins puisqu'ils vont discuter entre eux justement pour mener à bien leur mission, on est capable de garantir que la mission est réalisée. Donc cette problématique de mettre un ensemble d'appareils en l'air, c'est quelque chose qui est important, alors à la fois sur le plan militaire, hein, beaucoup de nos travaux sont effectivement financés soit par des industriels de l'armement, soit par la DGA elle-même, la Délégation Générale à l'Armement, soit même par des fonds militaires américains, pour certains d'entre eux. Cette problématique, je disais, de combiner un ensemble de plateformes est tout à fait pertinente sur un théâtre d'opération parce qu'on va être capable de mener une opération sur le long terme, c'est-à-dire que si des engins sont perdus, les engins qui restent vont pouvoir continuer à travailler, et d'autre part, en combinant les fonctionnalités de plusieurs engins qui vont être sur le terrain, on va obtenir des fonctionnalités plus importantes. Je prends un exemple, hein. On imagine un drone, on imagine la volonté de détecter des émissions chimiques au-dessus d'une ville. On peut prendre un drone qui va voler à haute altitude et qui, lui, avec une caméra, par exemple, va détecter, par une analyse d'image, des émissions de fumée. Simplement, comme il sera trop haut, il ne sera pas capable, avec un nez chimique, de déterminer la nature de l'émanation de fumée. Donc on va mettre des drones de plus bas niveau, qui, eux, vont avoir des nez chimiques, mais qui n'auront pas la vision globale, donc ils ne sauront pas où exactement ils doivent aller effectuer leur prélèvement, et ils vont être guidés par le drone de plus haut niveau. Et donc on se rend compte qu'en ayant combiné des appareils de nature différente ou en ayant combiné plusieurs entre eux, on est capable de réaliser des fonctionnalités nouvelles. Donc c'est pas simplement une multiplication des engins, mais c'est aussi des fonctionnalités nouvelles.
Allez-y, non, au niveau des enjeux des technologies pour développer ces drones.
Alors pour développer les drones, ben je pense que ben Christophe, vas-y, tu es plus sur l'aspect matériel, Christophe est beaucoup plus au point que nous, puisque effectivement les drones avec lesquels on travaille viennent de sa société.
Oui, parce qu'on se demande quand même comment ils peuvent communiquer entre eux, comment ça marche. Et en termes d'autonomie aussi, j'imagine que c'est un enjeu.
Ah oui, de toute façon, les drones, c'est l'autonomie. D'ailleurs, au départ, on parlait beaucoup de systèmes autonomes. Alors, c'était de façon générique de parler de tous ces véhicules ou ces objets communicants qui étaient capables de se déplacer tout seuls. Et effectivement, le cœur du drone, c'est pas le véhicule, c'est vraiment ce qu'on appelle le système embarqué qui a l'intelligence effectivement de navigation. Là, on va parler de pilote automatique. Cette brique qui est essentielle puisqu'elle fait à la fois la qualité de la mission, c'est-à-dire qu'une bonne navigation va permettre de certainement faire une bonne mission, récupérer un bon résultat, mais aussi la fiabilité, c'est-à-dire que là, on a des engins qui sont sans pilote à bord, qui vont se déplacer dans l'espace. Donc l'espace aérien pour les drones aériens, mais les drones, on a parlé de drones terrestres aussi, c'est pareil, ce sont des engins qui vont circuler au milieu des personnes et qui potentiellement peuvent être un danger. Donc il faut absolument que le système soit fiable, soit robuste aux aléas que le véhicule va pouvoir rencontrer et avoir toutes les sécurités d'arrêt d'urgence pour éviter de blesser qui que ce soit.
Quelles ont été les grandes évolutions technologiques depuis la création des drones ?
Alors, je pense que il y a un phénomène, on va dire, qui est lié aux nouvelles technologies. Donc, on va parler d'objets communicants, de calculateurs de plus en plus miniaturisés, des capteurs de plus en plus performants. Donc, cet assemblage, en fait, de technologies font que le drone, d'ailleurs, on parle de système, c'est pas pour rien, hein, le drone, en fait, est un agglomérat de plusieurs technologies qui font que, ben, on peut se permettre d'avoir un niveau d'intelligence qui lâche, en fait, finalement, des véhicules dans la nature comme ça. Donc c'est ces technologies qu'on retrouve à la fois dans l'électronique de tous les jours, qu'on retrouve dans nos smartphones, hein. Donc il y a beaucoup de capteurs qu'on voit dans les smartphones qu'on appelle des MEMS, hein, donc qui sont des petits capteurs sensoriels qu'on retrouve dans les briques de navigation des drones.
C'est aussi un point qui fait la différence avec les petits drones sur étagère qu'on va trouver dans toutes les grandes surfaces, qui vont valoir quelques dizaines pour certains maintenant, voire quelques centaines d'euros. Mais effectivement, là, on va avoir l'engin, mais toute la partie finalement importante et aussi la station sol, le système qui va avec. Donc, comme disait Christophe, on parle effectivement de système de drone. Il n'y a pas que la partie aérienne, mais il y a une partie sol qui est extrêmement importante et qui contribue à la réalisation de la mission, et chose qu'on ne trouve pas dans un petit engin amateur qui va coûter trois fois rien.
D'accord. Alors, quelles sont les recherches aujourd'hui au laboratoire bordelais ? Donc, quelles sont les recherches aujourd'hui, les principales recherches sur le drone ?
Alors, les principales recherches, donc nous, on est un laboratoire d'informatique, donc on est assez peu sur la partie électronique. On a eu l'occasion, dans un projet, de travailler avec Christophe pour justement, ce qui nous intéressait, nous, c'était de faire communiquer des engins pendant qu'ils étaient en l'air. Donc, on a défini nos besoins en termes de communication, on a spécifié les cartes, et puis les équipes de Christophe les ont assemblées et intégrées dans l'engin. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait communiquer ces engins-là ? Comment est-ce qu'on est capable d'en faire communiquer potentiellement des centaines ? Le jour où ils vont être extrêmement miniaturisés, on ne va pas en mettre 5 ou 10 en l'air comme on l'a fait, on va en mettre des centaines. Comment est-ce qu'on les fait communiquer pour avoir des engins qui ont un comportement local, c'est-à-dire qui regardent leur environnement, ils prennent un certain nombre de décisions, et faire apparaître ce qu'on appelle des comportements émergents. Exemple, ce qu'on a avec les oiseaux, un oiseau qui vole en formation, il a juste un comportement local, il regarde ce que font ses voisins et il se positionne. Et le fait que chacun fasse ça, fait évoluer le système vers un aspect émergent global qui est la formation en V des vols d'oiseaux. Donc c'est exactement le type de configuration qu'on cherche à reproduire sur ce que j'appelais les essaims tout à l'heure. Ça c'est un point. Un autre point qui nous intéresse, c'est lié à la réglementation, qui est qu'en toute théorie, aujourd'hui, si je veux faire voler un engin, tu m'arrêtes Christophe si je dis une bêtise, mais je dois avoir un opérateur au sol. Quand on en met 5, 10, 100, on peut naturellement plus. On va pas avoir 100 personnes au sol prêtes à récupérer l'engin en cas de défaillance. Donc on met en place des validations des applications ou des missions qu'on réalise de sorte à apporter aux organismes de certification et qui donnent les autorisations un bon degré d'assurance quant au succès de la mission. Et ce qu'on espère, mais ça c'est du long terme, hein, on espère qu'en garantissant le succès de la mission et en levant, grâce au modèle mathématique qu'on va mettre derrière, une partie des risques, on espère à terme arriver à faire assouplir la réglementation pour, par exemple, lever ce genre de contraintes et pas avoir une personne au sol par appareil en l'air ou par robot au sol.
Alors les enjeux maintenant du cluster en Aquitaine.
Alors les enjeux sont, ou les challenges plutôt, plus sont multiples, parce qu'on est sur une filière émergente, donc quand on dit ça, on comprend que d'abord c'est nouveau, et quand on parle de filière, ça veut dire que ça structure. Donc pourquoi ça structure? Parce qu'il y a un marché qui arrive, et sur lequel donc les industriels se positionnent, les opérateurs aussi, hein, donc puisque on parle d'outils, donc ça veut dire que c'est déployé aujourd'hui autour de nous. Alors ça reste encore, on va dire, assez peu visible, mais on en entend plus parler qu'on ne le voit finalement de ces engins. Bon, ils sont petits certes, mais effectivement on n'a pas encore atteint le niveau de marché on va dire plein qu'on peut espérer sur ces systèmes là et le cluster arrive en support, effectivement un support économique, hein, donc puisque là il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de se positionner sur ce marché avec les difficultés d'émergence, donc il n'y a pas forcément beaucoup de contrats, il y a beaucoup d'attentes, d'espoir, de demandes, et en même temps il faut apporter une technologie qui soit adaptée, donc fiable, adaptée aux besoins futurs qu'on connaît déjà, mais qu'on connaît pas encore, hein, puisque je pense que sur le monde des drones, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et le cluster, donc, a cette, on va dire, cette vocation et puis cet intérêt, c'est de supporter on va dire ces jeunes entreprises dans leur phase d'émergence, de gagner ces contrats. Donc il y a un support, on va dire, à la fois business, il y a un support aussi qui est intéressant, c'est qu'un cluster c'est une communauté, donc c'est un espace d'échange qui est important, donc on peut voir ça aussi comme un forum. On va partager à la fois les problèmes, mais on va aussi partager les réussites, et ça c'est important pour une dynamique. Et le cluster là est bien sûr une dimension régionale, puisque déjà avoir une communauté en proximité, c'est pas évident à mettre en place, et quand ça marche bien, c'est une vraie force. Et on peut imaginer des clusters qui s'amplifient, qui grossissent, et là il y a une dimension nationale qui est en train d'émerger aussi, hein. Donc là on parle cluster à Étos pour l'Aquitaine, et il y a aussi des filières au niveau national, donc ce qu'on appelle le Conseil des drones civils, qui se met en place pour, comment dire, aider les entreprises françaises à être plus performantes sur le marché international. Et c'est pas simple.
Merci. Oui, pour compléter, le cluster a aussi un vrai rôle d'animation vers le monde académique. On a pu en particulier mettre en place une conférence internationale qui s'est déroulée deux fois déjà à Mérignac pendant le salon UAV Show, qui est un gros salon européen du drone, et qu'on va exporter. Donc c'est une conférence académique, hein, avec des universitaires de tous les pays, et on exporte cette année cette conférence vers les États-Unis sur le salon AUVSI, qui est probablement le plus gros salon mondial du drone, donc avec le support du cluster. Ça c'est un premier point. Et un autre point où il y a un support du cluster dans le monde académique, c'est à travers la mise en place d'un concours qui s'appelle Concept Drone. Donc l'idée, c'est qu'on fait des équipes d'étudiants de différentes institutions. Donc on a des étudiants de la formation informatique de l'université, des étudiants de l'ENSEAP, qui est une école d'ingénieurs avec une filière informatique, des étudiants de CAGE et l'INSEC, qui sont des écoles orientées business, et puis des étudiants de l'école de Condé, qui est une école de design bordelaise. Et on met des groupes d'étudiants comme ça mélangés, et l'objectif, c'est pour eux de sortir un nouveau concept de drone ou un nouveau concept d'application. Donc c'est la troisième édition qu'on réalise, et on est toujours émerveillé par les résultats qu'on obtient avec des projets absolument innovants, et qui, pour certains, on l'espère, vont déboucher même sur des créations d'entreprises.
Je vous remercie Serge Chaumette. Je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique. Merci aussi à Christophe Mazel, dirigeant de Fly & Sense, donc une PME située à Mérignac, mais une PME plein d'avenir. On se retrouve d'ailleurs, nous, la semaine prochaine pour parler des applications des drones dans le civil. C'est terminé pour notre magazine scientifique sur les rives des sciences. On se retrouve mardi prochain de 12h30 à 13h, rediffusé de 18h30 à 19h. Très bonne écoute sur Eau de Radio.
Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3.